Chapitre 20. La pierre de soleil. Pour les 6 fugitifs, les jours se succédaient dans leur prison dorée. Une prison aux 150 chambres, 3 bars, 2 restaurants, une piscine, une salle de sport et une bibliothèque. L'automne qui s'installait sur Paris leur paraissait aussi virtuel que lorsqu'ils habitaient sous la pyramide, bien au chaud et protégés des intempéries. Dès que le soleil brillait assez, ils se rendaient dans le patio du palace ou plus souvent encore dans le grand jardin, une cour intérieure invisible de l'extérieur, somptueusement décorée d'une fontaine romantique, de parterres de magnolia et d'arbustes taillés en boule tous les jours par lundi et jeudi, pour qu'aucune feuille de buis ne dépasse. Les nouvelles de l'extérieur leur parvenaient chaque matin par la feuille de chou. Leur tête était toujours mise à prix, et le montant offert par le ministère des punitions pour leur dénonciation augmentait de 5 lunes par semaine. Impossible dans ces conditions de mettre le nez hors du palace. Par les dizaines de fenêtres de l'hôtel, ils pouvaient observer les rondes permanentes des gardes civils dans les rues de Paris. Les 6 fugitifs s'occupaient comme ils le pouvaient. Sabi multipliait les longueurs dans la piscine et en sortait les yeux rougis par le chlore et les remords. Hakan avait fait de la salle de fitness son royaume et, à force de soulever des poids et des barres de fer, paraissait chaque jour plus musclé. Alix et Zizo lisaient beaucoup, installés sur le même canapé de cuir du salon Hemingway. Agnelle passait son temps, quelle que soit la météo, dans le jardin d'hiver, à apprivoiser les mésanges et les rouges-gorges qui s'y donnaient rendez-vous, Mano toujours à ses côtés. Ils évoquaient souvent la honte de se cacher ainsi, de profiter de la vie sans se soucier du désordre dehors, de ne rien tenter pour délivrer Valère. Mais comment faire? Les soirées s'étiraient, longues et identiques. Mano jouait souvent de la guitare, tous l'écoutaient. Jacques, parfois, se joignait à eux. Il appréciait la musique, il appréciait les livres aussi, il aimait l'art en général. Les rares soirs où il n'avait pas bu, il aimait discuter une partie de la nuit en fixant les étoiles. Il pouvait parler pendant des heures de lecture avec Alix et Zizo, de sport avec Hakan, de voyages et d'animaux avec Agnelle et Mano. Agnelle était particulièrement fascinée par le seul souvenir que Jacques avait conservé de sa vie d'astronaute, une météorite de la taille d'un ballon vissée sur un socle de bois. Sa pierre de soleil, comme il l'appelait. Une roche extraterrestre extrêmement rare, aux milliers de reflets dorés. L'Union astrologique internationale lui avait offert ce trophée pour récompenser son titre d'astronaute de l'année. Mais pourtant, c'est avec Sabi que Jacques entretenait les conversations les plus enflammées. Sabi était sa chouchoute, la seule ado, curieusement, qu'il vous voyait. La Lolly Girl n'hésitait pas à contredire Jacques, à lui lancer à la figure ses vérités, son égoïsme, son alcoolisme, et Jacques, tant que Sabi ne dépassait pas certaines limites, appréciait. Du moins tant qu'il n'était pas ivre. Il s'isolait alors et déversait toute sa méchanceté accumulée sur Cros-Bleu, son souffre-douleur aux dents de saphir. Jamais Cros-Bleu ne se rebellait contre son maître. Mais dès qu'il s'endormait, une bouteille vide de champagne roulant sous son canapé, le préma au visage monstrueux se vengeait sur les 7 privilégiés. Les 7 prémas, de lundi à Dim, s'occupaient de tout dans le palace. Chacun possédait sa spécialité. Dim gérait la cave, composée de près de 3000 bouteilles de vin. Lundi était chargé de l'entretien des chambres, mardi et mercredi des repas, jeudi de nettoyer et repasser leurs habits, vendredi restait au service exclusif de Jacques. Enfin, Sam s'occupait des relations avec l'extérieur, notamment de recevoir les primitifs et les prémas chargés de déposer devant le palace tout ce qui était nécessaire pour que rien n'y manque jamais. Alix et Zizo observaient leur manège tout en restant cachés. Ils avaient ainsi remarqué que depuis 2 semaines, une croix verte était dessinée sur le cou, l'épaule ou la nuque des livreurs. Le petit déjeuner était souvent l'occasion de commenter l'actualité en lisant la feuille de chou que Sam leur apportait. Jacques ne se levait jamais avant midi. Ce matin-là, dans le journal, la récompense pour leur capture était montée à 55 lunes. Coriolis annonçait une fin d'automne caniculaire. Les primitifs avaient désigné des champions pour le tournoi de l'étoile qui s'affronteraient dans le stade des princes lors d'une épreuve de présélection. Les nouvelles épreuves du certificat d'aptitude à la promotion et l'éducation s'étaient apparemment déroulées sans heurts et 8 primitifs avaient été promus par Isalis, dont pas moins de 3 ombrageurs. Les savants, à défaut d'être parvenus à faire rouler des voitures sans essence, annonçaient la mise au point de trottinettes fonctionnant à l'énergie solaire, des trottosols. Ils éprouvèrent tous une terrible nostalgie en pensant à Liu, Lunella et leurs autres amis.
« Et Valère, qui pensait lui ?» demanda Sabi.
La Loli Girl leur avait exposé un énième plan pour libérer l'historien auquel elle avait réfléchi pendant la nuit et que tous avaient trouvé irréaliste.
« Et on fait quoi alors ? » explosa-t-elle. « On reste ici jusqu'à nos 18 ans ?»«
On n'a pas le choix, » tenta de modérer Alix. « On doit attendre. »«
On ne sert à rien ici !»«
Ce n'est pas certain, » suggéra Zizo. Je suis sûr que Jacques en sait beaucoup plus qu'il ne veut nous en dire sur le passage du nuage, sur Marie-Lune et Pierre-Sol, sur ce laboratoire utopie. Peut-être même connaît-il l'endroit où il se trouve.
Sabi leva les yeux au ciel.
« L'Empire de la mort » fit-elle. « Tu parles ! Yak n'est qu'un pauvre type alcoolique, une espèce de parasite qui se fiche du reste de la Terre, qui martyrise son majordome aux dents bleues et ses 7 larbins privilégiés. » Il a vendu ses prémas pour en faire des esclaves, en échange de sa misérable petite vie de pacha. Il n'est rien qu'un de ces petits rois fainéants du Moyen-Âge dont Valère m'a parlé. Clovis, Childéric, Dagobert, tiens, Dagobert, c'est comme ça qu'on devrait l'appeler.
Alix et Zizo essayèrent de faire comprendre à Sabi qu'elle devait se taire. Crobleu écoutait. La chambre de Jacques n'était pas très éloignée. La porte du restaurant s'ouvrit soudain.
« Non, c'est elle qui a raison.
Laissez-la parler. » Jacques se tenait derrière eux, réveillé, pieds nus dans son peignoir ivoire.
« Sabi a raison, » répéta Jacques. « C'est exactement ce que je suis. Un roi fainéant, un parasite. Un être totalement inutile.
Et vous savez pourquoi ?»«
Parce que je suis un adulte. Un adulte qui, comme tous les autres adultes, se croit important. Se croit intelligent, passe tout son temps à construire des théories sur sa liberté et la façon dont le monde pourrait mieux tourner. Et pas besoin d'être resté 6 mois en orbite autour de la Terre pour ça. Chaque adulte qui l'ait voyagé partout dans le monde ou n'ait jamais quitté sa maison est persuadé qu'il a raison, et que les autres sont tous des cons à l'exception de ses quelques amis qui pensent comme lui. »
Sabi tenta de le couper, mais Jacques haussa la voix.
« Laissez-moi parler. Je suis le seul adulte que vous connaissez, c'est une sacrée responsabilité pour moi, non ? Alors je ne voudrais pas vous décevoir en vous cachant la vérité. Oui, tous les adultes sont comme moi. Aigris, égoïstes, incapables de renoncer aux ridicules miettes de luxe qu'ils ont grappillées. Mais vous voulez savoir le pire ? »
Les 6 ados devant lui restaient muets, croissants ou pains au chocolat bloqués devant leurs bouches grandes ouvertes.
« Le pire, » continua Jacques, « c'est que vous allez devenir comme moi. Vous aussi allez devenir des adultes, et bien plus vite que vous ne le croyez. Alors, vous aussi, vos illusions, vous les perdrez. Déjà, je suis certain que vos jolis rêves de l'enfance commencent à disparaître. Votre pauvre petite innocence. Vous deviendrez, comme tous les autres adultes, des êtres remplis de certitudes, obsédés par une seule chose, avoir raison, au point de vouloir faire disparaître la moindre contradiction. N'est-ce pas ma chance ? Ma chance inouïe, depuis que ce foutu nuage est passé ? Plus personne, depuis presque 16 ans, pour me balancer à la figure à quel point je ne suis qu'un pauvre con. »
Pas un des ados n'osait refermer la bouche sur les viennoiseries qu'ils serraient entre leurs doigts gras.
« Alors profitez, mes enfants. Profitez des dernières années qu'il vous reste à espérer un futur meilleur. Vous êtes au courant, non ? L'humanité est repartie de zéro. On a tout rembobiné. Les adultes ont poussé le bouchon de la connerie jusqu'à tous s'éliminer. » « Jusqu'à tous s'éliminer ?»
Zizo, sous le coup de la surprise, avait presque crié.
« Jacques » continua-t-il. « Est-ce bien ce que vous voulez nous dire ? Que les adultes se sont entretués ?»
Jacques les regarda avec une froideur et une méchanceté qu'il n'avait encore jamais lues dans ses yeux, même quand il était sous l'emprise de l'alcool.
« Ne me parlez pas du passé ! Jamais ! Ou bien je vous fous tous dehors ! Alors profitez de mon palace autant que vous voulez, mais n'oubliez jamais qu'ici... vous n'êtes que mes invités. »